Vous écoutez les Chroniques de Chicago, une campagne du jeu de rôle Vampire la Mascarade, 5e édition. Entrez dans le monde des ténèbres, mais soyez avertis, c'est un univers aussi violent qu'impitoyable, et nos joueurs y incarnent des monstres de la nuit qui pourraient être amenés à commettre de sinistres actions. Ce podcast se destine donc à une audience adulte. Desmond vous a devancé, du coup, lui il est déjà arrivé au 12e étage, et quand vous arrivez à celui-ci, la porte est déjà ouverte, et Desmond fait le guet devant une porte d'appartement. Venez, il est là, on a de la chance.
Christopher va aller vers lui assez naturellement, et il va dire « C'est parfait, ouvrez la porte ». Et Christopher met en joue des fois qu'il y a des surprises.
Il ouvre la porte, et vous arrivez dans un appartement tout à fait banal, mais vous pouvez remarquer immédiatement que les fenêtres ont été condamnées et la porte elle-même a été sécurisée. Les gonds ont été renforcés. Il y a des loquets considérablement sécurisés qui en ferment l'accès. Et une fois que vous êtes à l'intérieur, Desmond referme derrière vous et bloque tous les loquets. Dans ce salon qui a tout d'un squat avec quelques sofas, une télévision, une hi-fi, il y a trois personnes. Christopher reconnaît immédiatement Kevin Jackson. Le bel afro-américain arbore une coupe soignée et une tenue un peu street avec un polo serré noir et un pantalon de jogging rouge. Et du coup, il est accompagné par deux autres afro-américains. L'un qui lui ressemble un petit peu, mais qui paraît plus jeune de quelques années. Et l'autre, ça a l'air d'être clairement un garde du corps parce que lui aussi, il a un fusil en main et il a une oreillette avec visiblement une radio à la ceinture. Il doit être en contact avec d'autres personnes dans le bâtiment.
Kevin Jackson ?
Il va tout de suite s'exclamer. C'est quoi ce putain de bordel ?
On évacue. Trop long à expliquer. On se concentrera sur ça plus tard.
Bah, du coup, on a été prévenu par Desmond, là. Apparemment, un hélicoptère arrive. Le plus important, vraiment, c'est que Bayard et moi, on puisse se barrer de ce cauchemar. Le reste, on pourra gérer plus tard.
D'accord. On vous escorte jusqu'à l'hélico, donc.
Quand il a mentionné le nom de Bayard, il désignait le jeune homme à côté de lui.
Hélène va se mettre devant Desmond et le regarder. Elle va croiser les bras et dire « On nous a jamais parlé d'hélicoptère.
Hein. » C'est vrai que Balthazar ne l'a pas évoqué.
Nous, on nous a dit « Il faut évacuer, donc on va évacuer. » Moi, le truc de l'hélicoptère, désolé, mais j'ai pas entendu l'ordre.
Vous ne croyez pas que Balthazar nous aurait mis au courant d'une telle possibilité d'extraction, si c'était le cas ?
Quand Lodin nous a contactés pour nous dire de rejoindre Balthazar, il nous a dit qu'il allait envoyer un hélicoptère sur les lieux. Je pense que c'est un hélicoptère de Ballard, j'imagine. C'est une sécurité supplémentaire. J'ai cru comprendre aussi que la meute des loups ne devrait pas tarder.
Est-ce que je peux utiliser mon empathie pour voir s'il essaye de nous monter un char ?
Oui, tu peux tout à fait. Ça sera un jet d'astuce plus empathie, du coup.
Ouais, j'allais demander la même chose.
Tout le monde a empathie, en fait. Alors, ce qu'on peut faire, c'est que, comme vous êtes plusieurs, avoir le même pool, vous pouvez faire travail d'équipe, entre guillemets. Vous jeter des petits coups d'œil, à vous interroger, est-ce que tu trouves qu'il dit la vérité ou pas, etc.
Coup de sourcil sur la droite, ça veut dire on les abat tous.
Christopher lance avec 9D.
Ouais.
5 succès, c'est très bien. Desmond a l'air de dire la vérité. A priori, l'hélicoptère, c'est la solution de sécurité qui a été envisagée. Qui vous en est pas parlé, vous savez pas trop pourquoi, mais...
C'est pas spécialement suspect, ok.
Effectivement, Desmond et les deux autres sont arrivés après votre groupe et celui de Balthazar, donc peut-être qu'ils avaient plus d'informations par rapport à ce que comptait faire Lodin ou pas.
Ok.
Du coup, je dis, et Christopher, est-ce que je peux te parler un peu, genre, sous-entendu, à l'écart ?
Du coup, Christopher s'éloigne avec Lizzie.
Du coup, je dis juste, du coup, si on s'en va par hélicoptère, est-ce qu'on prendrait pas les gamins avec nous ? Parce que là, il suffit qu'ils croisent un descendant affamé, et c'est fini, quoi.
Je pense pas que nous, on soit accueillis dans l'hélicoptère, honnêtement. Nous, on est là pour escorter Jackson, il a jamais été dit qu'on évacuait. Du coup, je propose qu'effectivement on ne fasse pas. Revenons.
Moi qui ai vu, on a tous vu les photos avec les croix marquées. Est-ce qu'on reconnaît quelqu'un ?
Kevin Jackson faisait partie des photos, oui.
Ah, bien vu.
Mais du coup, Hélène, pour faire passer le message aux copains sans que ce soit trop suspect, elle va regarder le mec et dire « C'est marrant, je crois que je vous ai déjà vu en photo. »
Alors, Kevin Jackson va hausser un sourcil et dire « Ah bon ? Moi, je vous connais pas, en tout cas. »
Non, mais je pense qu'on se connaît pas, mais je t'ai déjà vu en photo quelque part. Enfin, bref. Elle va quand même regarder les copains pour voir s'ils captent le délire.
Ah, ça m'étonnerait beaucoup, quand même. J'essaye de rester discret.
Bah ouais, mais écoute, c'est pas ma faute.
On a un moyen de contacter Balti ? On m'a donné un talkie-walkie, quelque chose ?
Desmond doit avoir une radio.
Du coup, Christopher, il va hocher la tête à Hélène pour lui faire montre qu'il a compris. Et il va se tourner très naturellement. Il va faire « Vous avez une radio avec laquelle je pourrais contacter le shérif ? J'ai besoin de savoir où il en est. »
Ouais, je l'ai eu. Apparemment, ils sont un peu coincés en bas, mais ils gèrent la situation.
Ok, je peux vous l'emprunter ?
Il la décroche de sa ceinture et te l'attend.
Très bien. Lizzie avec moi. Et du coup, je retourne dans l'autre pièce. Balthazar ?
La situation est gérable. On progresse.
Ok. Nous, de notre côté, on est arrivé à Monsieur Jackson. Pas un problème. Par contre, ce qui est un problème, c'est que vous vous souvenez les photos marquées ? Il était marqué sur une des photos. Donc, on pense qu'il est déjà manipulé. Qu'est-ce qu'on fait ?
C'est pas seulement qu'il y a une cible.
On n'est pas sûr. Mais nous, on pense que ça pue la merde et qu'il est manipulé. Si son évacuation est faite par hélicoptère, faudrait faire très gaffe à ce qui va se passer.
Bah écoutez, qui se casse nous, on nous demande de faire quelque chose. Ce qui arrive après, c'est pas mon problème.
Non, non, non. C'est peut-être pas notre boulot, mais ça serait bien de faire remonter l'information avant qu'ils aient une surprise à l'atterrissage.
Enfin bon, faut arrêter d'être débile.
Bah, dès qu'on s'en va là, on essaie de prévenir le deal dans ce cas. Mais je vois pas ce qu'on peut faire de plus.
Je vous laisse contacter Lodin et lui dire de se méfier de Jackson et d'avoir un comité d'accueil au cas où.
T'entends des crépitements comme s'il y avait encore des coups de feu autour de ton interlocuteur. Balthazar va dire...
Ouais, on fait ça.
Ok, merci.
Alors à mon avis, il a aucunement l'intention de prévenir Lodin parce qu'il considère que c'est pas son problème. Il a dit ça juste pour que tu lui lâches les basques.
Je pense qu'il est assez intelligent pour comprendre quand même le message qu'on lui a fait passer. Il a juste d'autres chats à fouetter là maintenant. Et nous, on peut rien faire de plus.
Oui, mais là, concrètement, l'enfant, il va arriver à Lodin bien avant que Balthazar se dépatouille de ses membres de gang. Est-ce qu'on pourrait pas faire une lettre à l'intention de Lodin ou un truc du genre en disant que c'est notre rapport ?
Ah !
Après, il faut pas qu'il lise le truc, quoi. Moi, c'est ça qui m'inquiète.
Ok, dans ce cas-là, on présente ça comme notre rapport officiel.
Ouais, alors rapport officiel, c'est peut-être un peu chaud pour un truc griffonné comme ça. Tu écris sur un papier, tu dis que c'est des informations qu'on a récupérées dans les dernières nuits et qui doivent absolument parvenir le plus vite possible à Lodin. Comme ça, tu brouilles un peu, tu dis dans les dernières nuits et voilà.
Oui, ouais, c'est information prioritaire, sécuritaire à donner à Lodin.
Ça, et maintenant, il faut juste espérer que le gars décide pas de quand même passer outre et le lire, quoi.
On confie ça au pire.
Mais de toute façon, soit il est pourri... Et dans ce cas-là, c'était la merde déjà. Soit il l'est pas, il aura le seum qu'on dise qu'il l'est peut-être. Mais voilà, on reste dans les clous. Vaut mieux mettre un message que pas en mettre, je pense.
Oui, et de toute façon, on va jouer la sécurité. Quand on sort, j'essaye de joindre Sovereign en priorité.
Oui, bien sûr. C'est juste que là, je me dis qu'il va forcément arriver avant nous, en fait.
Oui, mais je vais quand même joindre Sovereign qu'il avertisse le prince.
Au loin, vous entendez le bruit d'un hélicoptère dans la nuit.
Ok, bah du coup, j'écris sur le calepin très rapidement. Kevin Jackson, possibilité de possession ou de manipulation par le français. Avec un F majuscule à français.
Avec l'hélicoptère qui se rapproche, il y a Desmond et Jackson qui disent « Il faut qu'on monte sur le toit. Allons-y, dépêchez-vous, escortez notre sortie. »
Parfait. Je prends les devants. Puis du coup, Christopher va se remettre devant, le fusil en main, prêt à tirer sur le moindre truc un peu suspect.
Du coup, moi, je me mets derrière Christopher, prêt à sauter sur n'importe quoi.
Bah du coup, je vais surveiller les arrières, je pense. Puisqu'on a une frontline plutôt de choc.
Vous quittez l'appartement sécurisé pour retrouver le couloir sombre à l'extérieur. Et vous vous dirigez vers, du coup, l'escalier qui monte... vers le dernier étage et puis la porte qui permet d'accéder au toit. Pas de danger sur le trajet. Vous parvenez à progresser rapidement en petit groupe avec Christopher, Desmond, le garde du corps qui regarde à chaque coin s'il y a des dangers potentiels et qui vous permettent du coup d'arriver tout en haut. Christopher, tu vas me faire un jet de vigilance, astuce plus vigilance.
Astuce, j'aime bien. Alors j'ai combien en vigilance ? Moi j'ai 1, donc ça fait 5, c'est raisonnable. 2 succès.
2 succès, tu parviens à la porte qui mène au toit, tout te semble en ordre. Tu te hâtes de t'approcher de celle-ci pour l'ouvrir. Tu pousses, elle s'ouvre et elle donne immédiatement sur le toit. Il fait nuit, mais il fait moins sombre qu'à l'intérieur, du coup, puisque il y a au loin les lueurs du centre-ville de Chicago, du Loop, qui est vraiment tout proche. Vous entendez l'hélicoptère qui arrive. Vous le voyez pas précisément, c'est difficile de l'identifier. Peut-être en cherchant un peu, vous y arriveriez. Mais vous entendez son bruit, en tout cas, qui se rapproche doucement. Christopher en premier, avec Desmond.
Ok, moi je vais rester avec Jackson.
Donc du coup, il y a Christopher, Desmond et le garde du corps qui sont en premier.
Et Hélène.
Avec Hélène aussi. Et derrière eux, il y a le petit groupe formé par Kevin Jackson, Anna, Lizzie et, a priori, le petit frère de Jackson. Quand vous parvenez sur le toit, une forme bondit de sa cachette au milieu des sorties d'aération du bâtiment. C'est un homme, ou plutôt une créature à la taille massive. Ses membres pâles, allongés et sinueux se terminent par des mains aux doigts exagérément longs qui ont pris la forme de longues lames d'os. Son torse est également couvert par endroits de plaques osseuses. Le visage de ce monstre possède encore quelques traits humains, mais ils sont déformés par cette transformation. Il y a de longs cheveux noirs qui pendent de son crâne et ses yeux sont entièrement sombres, sans iris. Quant à sa gueule, ses lèvres sont fendues comme celles d'un loup et elle présente une mâchoire particulièrement menaçante. En faisant son entrée tonitruante, ses longs doigts tranchants ont fauché le garde du corps de Jackson qui a immédiatement perdu ses 2 jambes avant que son torse s'écrase au sol dans un déluge de sang.
Hélène va directement sauter sur la créature.
Moi j'allais dire que je vais immédiatement tirer, mais c'est... Bon, je sais pas ce qui est le mieux.
Elle est au milieu de Desmond, Hélène, Christopher et Feu, le garde du corps.
Du coup, je vais siffler pour qu'elle se retourne vers moi et j'utilise yeux de la bête.
Yeux du serpent, le problème c'est qu'il faut que vos regards se croisent.
Ouais, ouais.
Et ce sera un jet opposé du coup pour parvenir à le manipuler dans ce sens-là. Ce sera un peu comme le jet pour la domination. Pour croiser le regard d'une cible qui évite activement celui du personnage, il faut réaliser un jet de résolution plus intimidation.
Ok, ça me fait un pool de 4. Je vais utiliser mon truc de sang, le surge.
Un coup de sang, très bien.
Est-ce que je peux faire un reroll ?
Tu peux essayer. Critique. Donc là, elle passe de 2 succès à 6. Et avec la chance du coup que ça ne soit pas sur ses dés de swap, donc c'est un vrai critique. Elle attire le regard de la créature et elle utilise alors son pouvoir de yeux du serpent, qui est un pouvoir de présence du coup. Et yeux du serpent, du coup, c'est un jet de charisme plus présence contre son astuce et son sang-froid. Oh, joli.
5 succès. On va dire que je garde.
C'est surtout que sur 5 dés, dont 3 de soif, t'as tes 2 dés normaux qu'on fait un 10, quoi.
C'est beau, quelque part.
C'est beau. Tu as fait 5 succès avec un critique, et lui, il en a fait que 3, ce qui le paralyse immédiatement. Il est dans l'incapacité de faire des actions pendant un tour, et après ça, il pourra dépenser un point de volonté pour essayer de se libérer.
Ok.
Donc moi, là, j'ai une jolie cible qui bouge plus.
Qui est juste devant toi, par contre. C'est vraiment... il est à bout portant.
Ok, dans ce cas-là, je vais gueuler. Tout le monde recule ! En reculant aussi, et je vais tirer...
Ouais, du coup, les autres, qu'est-ce que vous faites ?
Du coup, s'il a hurlé reculer, j'aurais tendance à reculer, personnellement.
Anna, ce qu'elle compte faire, c'est pas vraiment prendre part à l'affrontement, c'est plus rester protéger Jackson et son petit frère, en fait. Si jamais c'est une diversion et qu'ils en profitent pour attaquer Jackson par un autre côté, quoi.
D'ailleurs, Jackson s'est positionné immédiatement un peu de manière défensive par rapport à son frère.
Hélène aussi va reculer un petit peu, mais tout en gardant le contact visuel, bien évidemment.
Desmond, lui, a fait un grand pas en arrière aussi. Fais ton jet d'arme à feu, Christopher. Tu as 6 dés.
Ouh, putain !
Oh, c'est beau. Tu veux pas relancer ?
Tu utilises un point de volonté, j'imagine, vu que là, pour l'instant, c'est un échec bestial.
On est d'accord, j'utilise un point de volonté.
Bon, 3 succès, c'est mieux quand même.
Ah putain, oui.
C'est peut-être l'anticipation de la gerbe de flamme qui fait hésiter Christopher un instant. Quand il tire, son coup est moins assuré qu'il le pensait. Il vient heurter le torse de la créature. Il y a bien entendu une gerbe de flamme qui se crée à l'impact et tu vois la peau qui commence à crépiter sous l'effet de la balle incendiaire. Très clairement, il est en train de prendre feu, mais l'impact du coup de fusil n'a pas l'air de lui avoir laissé de traces très importantes. C'est comme s'il y avait des espèces de plaques osseuses sur son torse qui sont maintenant criblées de plomb et en train de crépiter sous l'effet des flammes qui ont pris le choc surtout. De l'autre côté, à l'intérieur, alors que vous aviez l'impression d'être seul au niveau du palier de l'escalier, vous voyez une forme d'ombre, en fait, qui glisse sur le mur et qui vient d'un coup heurter Anna et la plaquer contre le mur, comme l'aurait fait un puissant bras constitué d'ombre. Elle se retrouve contre le mur à devoir se débattre pour essayer de se libérer. Tu vas me faire un jet de force plus bagarre.
Est-ce que réflexe éclair me permet de réagir par réflexe justement à ce genre de...
Alors tu pourrais faire une action mineure, par exemple sortir ton arme ou un truc comme ça.
Bah voilà, sortir mon arme c'est très bien.
Comme tu as sorti ton arme, tu peux faire un jet de mêlée à la place pour essayer de défaire de la créature en la plantant plutôt qu'en essayant de te débattre.
Ça me semble pas mal.
Là tu fais force plus mêlée. Tu as 2 en force, tu as 2 en mêlée plus 1 en couteau, ça te fait 5 dés.
Alors, 2 succès.
Lizzie voit Anna, qui est soulevée du sol, plaquée contre le mur, et qui est en train de se débattre en essayant d'asséner des coups de couteau à cette espèce de bras d'ombre qui se trouve devant elle. Mais c'est comme si toute la force qu'elle mettait pour essayer de faire rompre son assaillant ne servait à rien, et que la lame glissait sur ce bras d'ombre.
Est-ce que je reconnais ce que c'est, ce bras d'ombre ?
Lizzie ayant un très bon niveau en occultisme, très clairement, c'est une manifestation d'un pouvoir qu'on appelle l'oblivion ou l'obténébration. C'est un pouvoir favorisé par les Lasombra, un des clans majeurs du sabbat.
Et est-ce que je sais comment lutter contre ?
Je peux t'autoriser un jet d'intelligence plus occultisme, du coup, pour savoir les points faibles de ce genre d'attaque.
7, c'est ça ?
Tout à fait. 4. Alors Lizzie, c'est que ce genre de manifestation d'ombre ne peut être blessé que par une lumière vive.
Et du coup, moi j'ai une torche, donc je sais pas si ça va suffire, mais j'essaye déjà de la mettre à puissance maximum vers la barre d'ombre.
Kevin Jackson va faire pareil avec la sienne, et vous voyez du coup la prise du bras qui faiblit sur Anna. Par contre, il y a quelqu'un qui se trouvait en contrebas, qui était probablement dans l'attente de votre arrivée un peu plus bas et qui vous a suivi. C'est un homme très bien mis en costume cravate avec des cheveux presque blancs cendrés et une peau particulièrement pâle. C'est de lui dont provient cette espèce de bras d'ombre qui a suivi les murs jusqu'à monter jusqu'à Anna. Et vous voyez qu'il est entouré par tout un tas d'autres bras similaires comme s'il baignait dans l'ombre. On va revenir à ceux qui sont sur le toit. Il y a eu une détonation. Le coup est parti et a mis le feu un petit peu à cette créature horrible. Par contre, on est à un nouveau tour. Il va utiliser un point de volonté pour se libérer des yeux de serpent de Hélène. Et très clairement, là, il est dans l'idée de l'attaquer elle. De toute façon, c'est elle qui est dans sa ligne de mire. Il est particulièrement furieux d'avoir reçu ce coup de fusil. Et il s'apprête à charger vers Hélène. Qu'est-ce que vous faites, les autres ?
Je pense que le fusil à pompe à cartouche, c'est peut-être un peu trop dangereux maintenant. Surtout s'il fonce sur Hélène. Je pense que Christopher, il va juste sortir son colt et... Pom, pom, pom. C'est subtil, hein, mais au moins, ça sera pas incendiaire.
Très bien. Hélène, qu'est-ce qu'elle va faire ?
Ben, faire pareil que la créature qui fonce sur elle. Foncer sur la créature.
Ça aussi, c'est subtil.
Ouais, bah oui, écoute, on est là pour ça. Hein. Donc du coup, voilà, la subtilité d'Hélène va la faire courir et essayer de sauter sur la créature avant... voilà, c'est genre combat de fauve.
C'est la bagarre.
La bagarre.
Desmond, lui, va tirer dans le dos de la créature sans particulièrement trop de remords à l'idée d'utiliser les balles incendiaires, lui. Alors du coup, on va faire les jets simultanément. Comme la créature se focalise entièrement sur Hélène, son pool entier va être sur elle. Par contre, du coup, il n'aura pas de défense contre les autres attaques. Donc là, ça va être un jet opposé entre Hélène et lui pour voir qui l'emporte sur l'échange de coups. Et les autres, du coup, Desmond et Christopher vont faire leur jet de tir normal.
Ok.
Force et bagarre, j'imagine, pour moi.
Force et bagarre, du coup.
Je vais claquer un Blood Surge, je pense.
T'es déjà à 3 en soif, hein, oublie pas.
Depuis qu'on a commencé la campagne, t'as pas capté que je mets vive dangereusement
3 succès pour Cricri.
2 succès, c'est nul. Je vais reroll. Je m'en fous, j'ai plein de points de volonté.
Alors là, tu commences à en avoir beaucoup moins quand même.
3 succès. C'est mieux que 2.
Pour le moment, j'ai 3 succès de la part de Christopher, 4 succès de la part de Desmond et 3 succès de la part de Hélène. Donc les deux tirs vont toucher leur cible et on va voir si la bête blesse Hélène au passage. Oh, on a un Messi Critical du côté de notre créature. Il a fait 7 succès critiques contre la difficulté de 3 posée par Hélène. Très clairement, il est furieux à l'idée de s'être fait jouer comme ça par la Cétite. Et tout ce qui compte pour lui à présent, c'est la détruire.
Ok.
Donc, je calcule rapidement les dégâts. Il y a une marge de 4 avec ses griffes qui sont à 2. Là, Hélène, elle a 5 niveaux de santé et elle prend 6 dégâts.
Ah ouais, ça fait beaucoup.
Ce qui se passe, c'est que du coup, ça coche toutes les cases une fois.
Ouais.
Plus une autre case qui va être cochée en croix. C'est-à-dire que tu as un dégât aggravé.
D'accord.
Et en fait, pour que tu sois en torpeur, faut que tu sois à ton maximum de dégâts aggravés. Là, ça veut dire qu'il te reste 4 cases de santé.
D'accord.
Là, en fait, ce qui se passe, c'est que la créature se jette violemment sur Hélène. Et au moment où elle abaisse son bras, Hélène essaye de se protéger du coup. Et les doigts en forme de lame de la créature tranchent net l'avant-bras d'Hélène, qui tombe au sol.
Est-ce qu'en tant que du coup descendant, je ressens la douleur de ça ou pas du tout ?
Tu sens un peu la douleur quand même. C'est pas aussi critique que pour un mortel normal. Ça t'empêche pas de continuer à agir. Par contre, effectivement, là, tu es sérieusement blessé.
Ok. Du coup, Hélène va hurler de rage et de surprise en mode « Ouah, putain !»
Alors par contre du coup, il y a Christopher qui aligne son tir dans le dos de la créature et qui lui tire dessus. Les balles se plantent dans la chair à de multiples endroits dans le dos de la créature et Desmond lui va faire une décharge de fusil dans son dos. Et là, vous allez voir le dos entier de la créature prendre feu. Je vais faire un jet de volonté de sa part pour voir si elle ne panique pas à cause des flammes. 3 succès, là c'est pas suffisant pour quelqu'un qui est complètement engouffré comme ça dans les flammes. Du coup, la créature va faire ce qu'on appelle un Rotschreck, c'est la peur rouge, c'est une forme de frénésie qui prend les descendants quand ils sont opposés au feu, en fait.
Ok.
Hélène, alors que son bras gît devant elle, découpé, voit quand même la créature soudainement prendre peur et ses yeux sombres manifester une terreur certaine. De l'autre côté, à l'intérieur, l'homme en costume qui s'est avancé a pointé une arme à feu dans la direction de Kevin Jackson, alors que autour de lui, ses bras d'ombre fouettent l'air, prêts à en découdre. Qu'est-ce que vous comptez faire ? Anna a pu se dégager grâce à l'utilisation des torches et Lizzie se trouve à côté de Kevin Jackson et de son frère.
Je vais m'armer d'une torche dans la main gauche et de mon couteau dans la main droite et foncer vers le mec en fait en essayant de l'éblouir à l'aide de la torche.
Est-ce que Lizzie fait quelque chose ?
Elle sait qu'elle va pas trop pouvoir aider Anna, donc elle va monter et dans l'idée de voir si elle peut pas récupérer un débris enflammé pour se battre contre les créatures d'ombre de l'autre.
Elle monte à la recherche d'un objet enflammé et quand elle arrive sur le toit, elle va se rendre compte du coup que il y a cette espèce de créature monstrueuse qui est face à face avec Hélène. le dos complètement enflammé, avec Christopher et Desmond qui arrêtent pas de tirer dessus, et Hélène qui a perdu un bras.
De l'aimer. J'ai imaginé Lydie se pointer en mode « Attendez, j'allume une torche sur le dos de la créature, je reviens !» Et donc, je vais me dire que en fait, eux aussi, ils ont beaucoup de problèmes et que je vais pouvoir les aider, à part être un gros boulet. Donc, je redescends Bredouille, du coup.
Alors, de leur côté, Kevin Jackson et son frère tirent dans la direction de l'homme, et toi, tu vas arriver au corps à corps juste après pour attaquer. Ouf. Les trois hommes se tirent dessus. Et, visiblement, la personne que tu as face à toi, cet homme énigmatique en costume et avec une chevelure blanche, porte un coup particulièrement bien senti à Kevin Jackson. Et le touche au visage.
Oh, merde.
La balle traverse son orbite gauche. Tu vois, du coup, l'infant de Lodin porter immédiatement une main à son œil qui est en train de dégoliner de vitae.
D'une balle de qui?
Du Lassombra, qui vient de faire 8 succès critiques. Alors que, du coup, les balles qui ont été tirées sur lui ont eu l'air de se fondre dans les ombres autour de leur cible.
Est-ce que moi, je peux relancer, éteindre la vitae ou pas du tout?
Anna va faire son action et après Lydie va revenir comme une fleur. Ah, c'est la merde ici aussi.
Lydie, elle fait des allers-retours entre les deux, genre « Ah là, c'est la merde, ah là aussi, je sers à rien dans les deux !»
Anna va faire son attaque, tu as 7 dés de base, est-ce que tu veux faire un coup de sang?
Ouais, je vais faire un coup de sang parce que là, bah, en fait, ça se marie bien avec la situation, on est en train de complètement foirer la mission, donc je me déchaîne.
Ça te fait 4 succès, tu peux utiliser un point de volonté si tu veux.
Ouais.
Tu passes à 2 en volonté et tu peux relancer 3D. 5 succès. 5 succès, c'est pas mal du tout. Anna se jette sur lui, parvient à faire passer sa lame entre les bras d'ombre qui s'opposent en protection de leur maître. La lame vient lacérer le costume, laissant des grandes traînées à travers le tissu et dans la chair qu'il protège. Donc là, tu as 5 succès, ton arme fait plus 2, ça fait donc 7 divisé par 2, ça fait 3 dégâts sur la cible, donc il est blessé, mais il est encore en pleine possession de ses moyens.
Est-ce que la lampe torche que j'ai à proximité aide pour dissiper ou affaiblir les mains d'ombre qui l'entourent?
Ça les dissipe un petit peu, ça les repousse un peu, mais ça ne parvient pas à les blesser suffisamment, faudrait probablement une source de lumière plus puissante, genre une lampe UV ou un truc comme ça.
D'accord.
Lydie arrive, elle revient du toit où elle a assisté déjà à une scène atroce, et là elle constate que la situation n'est pas meilleure de ce côté-là.
Du coup, elle essaye d'éteindre la vitae si elle peut.
Très bien. Donc, éteindre la vitae, tu vas faire ton jet opposé avec ton adversaire. Ça te fait 7 dés.
Est-ce que je peux faire un coup de sang?
Vas-y. 7 succès critiques, avec par contre la soif de Lydie qui augmente. D'ailleurs, tu vas me faire un autre jet de soif pour voir si l'utilisation du pouvoir augmente ta soif.
Ouhou.
Tu passes à 3 en soif. Par contre, lui, tu augmentes sa soif de 2 niveaux. Donc, en quelques mouvements habiles, Lydie parvient à éteindre les pouvoirs de la vitae de ce descendant et à en restreindre la capacité à nourrir la bête. Et très clairement, là, ce descendant doit être dans une situation où il a particulièrement soif et ses actions vont être dictées par la bête. On revient sur le toit, la bête va chercher à s'enfuir, mais comme elle a sa compulsion de destruction sur Hélène, elle aura moins de dés pour ses actions visant à s'enfuir.
Ok.
Elle va essayer de bondir pour aller sur l'autre toit, la deuxième tour de la barre d'immeuble, et du coup créer de la distance avec vous. Qu'est-ce que vous comptez faire, les autres?
On a déjà à attendre de voir si elle se casse la gueule ou pas.
Je continue de tirer dessus, je pense. J'ai toujours des balles dans mon pistolet. Elles n'attendent que d'être délivrées avec amour.
Très bien. Alors, vous voyez la créature qui se retourne, laissant Hélène derrière elle, et qui se ruait en direction du rebord de l'immeuble. D'un coup, elle bondit de manière prodigieuse, au moins une dizaine de mètres d'un coup, pour atterrir assez correctement de l'autre côté. Pendant qu'elle était en train de faire ça, Christopher et Desmond continuent à lui tirer dessus.
Oh bah oui alors. 3 succès.
Desmond était en train de viser avec son fusil un cartouche explosive. Et la balle a peut-être pris un choc à un moment ou quoi que ce soit, mais en tout cas, au lieu de brûler à l'impact, la cartouche s'enflamme dans le fusil, s'embrasant dans les bras de Desmond, qui lâche son arme et commence à paniquer.
Tu m'étonnes.
Très clairement, les armes incendiaires sont très utiles contre les descendants, mais elles sont aussi le pire ennemi de leur utilisateur, puisque ce genre de cartouches ont quand même un bon taux de malfonction. Christopher, lui, donc, continue de tirer sur la bête, qui encaisse les balles sans trop de problèmes. Ça fait de nouveaux impacts qui s'enfoncent dans sa chair. Elle est maintenant de l'autre côté de l'immeuble. Que fait Hélène ?
Hélène va...
Saute.
Non, je peux pas sauter aussi loin, désolé, j'ai pas la célérité. Par contre, sans son bras, elle va essayer de voir, parce qu'elle a entendu aussi de l'autre côté des trucs.
Oui, elle a entendu des coups de feu qui viennent de la cage d'escalier.
Et du coup, je peux avoir un visu sur la son bras ?
Tu te rues vers la porte et tu vois que Anna est en pleine rixe avec quelqu'un. Et tu vois Kevin Jackson qui est adossé au mur, la main sur le visage et son sang qui coule abondamment sur celui-ci.
Ok, du coup je vais essayer de sauter sur le mec chelou.
Alors du coup on va revenir dans la cage d'escalier. Ça va être Anna qui va pouvoir agir en premier parce qu'elle est au corps à corps avec lui. Lui, il va partager ses actions pour attaquer Anna avec ses bras et se défendre contre d'autres attaques potentielles. Donc il va diviser son nombre de dés.
Yes, je continue à l'attaquer au couteau. Hein. Hop.
Très bien. Tu fais 4 succès. Lui, il va peut-être utiliser un point de volonté quand même. Et il ne fait que 3 succès quand même, malgré son point de volonté utilisé. Et ça, grâce au pouvoir de Lizzie, qui a augmenté sa soif à un point qu'il a presque que des dés de soif qui ne peuvent pas être relancés. Donc, Anna parvient à prendre le dessus. Sa lame laisse une entaille sévère le long de la joue de l'homme dont les bras d'ombre se débattent pour tenir à distance la Toréador qui s'acharne sur lui. Le frère de Kevin Jackson est entièrement focalisé sur celui-ci maintenant. Kevin Jackson, lui, par contre, se redresse, se rue à son tour sur l'homme en question. Que fait Hélène, du coup ?
Hélène, elle va essayer d'aller attaquer avec ses crocs et son bras restant. Donc toujours bagarre.
Vas-y. Kevin Jackson se jette le premier, parce qu'il était un peu plus proche. Il a l'air particulièrement furieux, et il parvient à heurter le lasson de bras au niveau des hanches, comme on l'aurait fait pour un plaquage de football américain. L'homme tombe en arrière et vient heurter le mur qui est à 1 mètre derrière lui, au niveau de l'escalier. Hélène fonce à son tour dans le tas, et alors que l'homme est en train de repousser les gens autour de lui à l'aide de ses ombres, elle vient asséner un coup de ses griffes qui lui tranche une main, qui tombe comme l'avant-bras d'Hélène peu avant par terre assez vivement, laissant une traînée de vitae tout autour. Il a l'air particulièrement en mauvais état, et on voit la peur qui commence à naître chez lui alors que quelques instants plus tôt, il était très sûr de lui. Nouveau tour. Là, vous êtes tous les trois à proximité, donc vous pouvez faire vos attaques comme bon vous semble. Est-ce que Lizzie veut essayer d'éteindre encore plus la vitae de sa cible, quitte à risquer de passer à 4 en soif ?
Bah, je pense que du coup, non. Parce qu'elle risque de passer à 4, voire 5 en fait en soif. Et du coup, non, c'est pas son genre de prendre ce genre de risque.
Très bien. Anna et Hélène, que font-elles ?
Anna va continuer à lacérer le mec de coups de couteau.
Vu qu'elle voit qu'il commence à avoir peur, elle veut pas qu'il s'enfuit. Donc du coup, elle va plus essayer de, avec son bras restant, tu vois, de l'accrocher et d'essayer en fait de le lacérer avec ses crocs, en fait.
Elle essaye de le mordre alors.
Ouais, ouais.
Anna a fait 4 succès, Hélène en a fait 2, L'attaque d'Anna, du coup, est un peu mitigée par un bras d'ombre qui vient intercepter son assaut, et elle parvient tout de même à planter son arme dans l'épaule de sa cible et à lui, a priori, briser la clavicule. Kevin Jackson, lui, de manière assez brutale, vient attraper le lassant-bras au cou et le plaque contre le mur d'une manière assez violente au point de laisser l'impact dans le mur de la forme de l'homme. Et alors que celui-ci est presque totalement immobilisé, Hélène vient planter ses crocs dans sa chair, déchirant les chairs au passage. Le lassant-bras tombe en torpeur sous l'effet de ses blessures. Le sang du lassant-bras pénètre les lèvres d'Hélène, qui sent un immense pouvoir qui réside dans celui-ci. Cette vitae est très riche et puissante, et elle ne peut pas trop s'empêcher d'en avaler un peu. Est-ce que Hélène continue à boire ?
Je pense qu'elle va prendre une gorgée de plus, mais je juge qu'elle a pas mal en sang-froid, et qu'elle peut du coup ensuite se retirer en mode « Oula, wow, on va se calmer, quoi. »
Elle le relâche, Kevin Jackson le laisse tomber au sol, et alors que le corps est visiblement en torpeur, vous voyez Jackson qui va commencer à piétiner le crâne jusqu'à n'en laisser que de la bouillie.
C'est une façon de faire.
On est d'accord que du coup, il est considéré comme étant décapité, là.
Il est considéré comme étant décapité et le corps commence à pourrir, comme le fait normalement un corps de descendant qui rencontre la mort finale. D'ailleurs, cette fois-ci, le corps se transforme presque entièrement en squelette. Avant de s'effriter et de se briser, il y a fort à parier que ce descendant-là était un peu plus ancien que ceux que vous avez tués auparavant. Mmh. Sur le toit, Christopher voit la créature paniquée qui, du coup, est en train de se chercher une sortie sur l'immeuble d'à côté. Et il voit la porte de l'escalier de l'autre tour être explosée d'un coup de pied.
Non.
Il va still kill, l'enfoiré.
Non. Shérif, il va pas steep kill.
Et effectivement, c'est Balthazar qui fait son entrée de ce côté-là, tombant nez à nez avec cette bête en perdition. Et Christopher le voit enchaîner plusieurs tirs de son propre fusil à pompe sur le Tsimish qui finit par s'écrouler au sol et se consumer très rapidement jusqu'à ne devenir que des cendres.
Oh, quel gâchis. Mais au moins, la créature est éliminée.
Une fois sa cible tuée, Balthazar souffle le canon de son fusil, puis le dépose nonchalamment sur son épaule, avant de faire coucou de la main à Christopher et Desmond.
Christopher va faire un pouce levé en mode « on maîtrise de ce côté-là ». Même s'il n'a pas vu ce qui se passait dans le couloir. Pour lui, le toit est nettoyé, c'est déjà pas mal.
Les bruits de moteur se font plus forts. Les bruits de l'hélicoptère, tout d'abord, qui finit par parvenir à destination. Il vient se poser sur le toit, alors que, en bas, dans la rue, vous entendez des moteurs rugir, des types de moteurs assez reconnaissables, des Harley Davidson, pour la plupart. C'est la meute des loups qui arrive un peu après la bataille, mais il est certain qu'il y a encore du ménage à faire par ici. C'est donc ainsi que Kevin Jackson peut rejoindre l'habitacle de l'hélicoptère, où on l'attend.
Alors, question stupide, est-ce que mon bras, on va pouvoir me le recoller ?
Alors ton bras, il va pouvoir repousser, ça va juste te coûter de la soif, en fait.
D'accord. Mais du coup, j'ai pas à reprendre mon bras. Genre, je peux le laisser.
Non. Non, d'ailleurs, au bout d'un moment, après avoir été séparé pendant un certain moment, le bras commence à se putréfier.
Glauque.
Christopher fait passer son message, sa note au pilote de l'hélicoptère.
Oui, il va faire. Vous remettrez ça au prince de la part des Cerbères. C'est urgent.
Le pilote empoche le mot, hoche la tête et va demander à Christopher « Vous montez pas ?»
Non, on assure les arrières. C'est encore trop le bordel ici.
Kevin Jackson rejoint l'hélicoptère, accompagné de son frère.
Desmond, montez et assurez-les.
Desmond va les accompagner. Et du coup, vous, qu'est-ce que vous faites de votre côté ?
Bah, faut qu'on s'occupe des mômes, en fait.
Ouais, faut qu'on s'occupe des mômes.
Alors, quel est votre objectif par rapport à eux ? Comment vous comptez gérer la chose ? Parce que très clairement, ils ont vu des choses affreuses qui pourraient être interprétées comme étranges.
faut déjà qu'on les mette en sécurité et on avisera quand la situation sera calme.
Ils ont vu beaucoup de choses terrifiantes durant cette nuit. C'est tout à fait normal pour eux de dire qu'ils ont cru voir un monstre ou un événement surnaturel.
Ouais, les psys, ils interpréteront ça comme une sorte de déformation imaginée ou je sais pas quoi.
Qu'est-ce qu'on fait? On les laisse sur place et ils seront trouvés par la police? Ou je donne un tuyau à mes contacts?
C'est le mieux.
Ok.
Vaut mieux qu'on interagisse le moins possible. Putain, mon bras, il s'est décomposé, c'est dégueulasse.
Ouais. Bon, donc on laisse les gosses. Moi, il faut absolument que je joigne Sovereign.
Ok, on rentre.
Et ensuite, je contacte mes contacts et je leur dis qu'il y a des gosses qui sont bien planqués.
Vous avez pu regagner votre véhicule alors que derrière vous, les membres de la meute des loups se chargent de chasser jusqu'au dernier des descendants appartenant au sabbat qui resterait dans ce bâtiment. Patine de rigaud, en tout cas. Même si ce Tsimish et ce Lassombra semblaient être des adversaires de taille. Vous avez laissé derrière vous, du coup, la tour où viennent de se dérouler une quantité innombrable de meurtres et des violences sans nombre. Il y a probablement quantité de mortels, de civils, d'innocents qui ont péri cette nuit proprement hallucinante.
La question, c'est est-ce que c'est nous qui devons gérer le bris de mascarade?
Ah non, nous, on est là pour les dénoncer. Puis là, on peut pas, hein.
Vous, on vous a pas demandé de gérer ça. Là, en plus, c'est le sabbat qui est intervenu, donc c'est un peu cas de force majeure. A priori, vous vous doutez que c'est Balthazar et puis probablement Peterson qui gère les médias et d'autres enfants de l'Odin qui sont assez puissants dans les autorités publiques qui vont se charger d'étouffer l'affaire et de transformer ce massacre en rivalité de gangs qui ont dégénéré. Il est certain que ces événements prendront une toute autre tournure dans les journaux demain.
Du coup, Hélène va poser sa main qui lui reste dans le dos de Lydie. Ça va aller?
Je vais dormir 15 jours et puis ça ira mieux.
Bon, en tout cas, c'est bon. C'est mission accomplie. On va pouvoir aller se reposer.
Toi, ça va? Je regarde son bras.
Ça fait bizarre, je vais pas te mentir. Et je commence à avoir un peu soif.
Pareil, je rentre.
Ah, d'ailleurs, est-ce que ce que j'ai bu, ça m'a rendu de la soif ou pas du tout? Ça a eu un effet particulier?
Ouais, on peut considérer que t'as regagné un niveau de soif.
Est-ce que ça a eu un autre effet particulier ou pas?
On en reparlera après.
Ça, on en reparlera après, j'aime pas trop où ça va. Du coup, Hélène va avoir l'air plus fatiguée et... aussi un peu attristée, ce qui est pas trop son délire habituellement. Elle est plus soit assez joyeuse, soit assez vénère. Là, honnêtement, clairement, la nuit l'a bien fatiguée.
On rentre au refuge et on laisse passer la journée et on se retrouve demain pour débriefer un peu tout ça, la nuit prochaine.
Oui, de toute manière, il faut que j'appelle Sovereign pour le prévenir pour Jackson.
Ouais. Demain est un autre jour, tout ça.
Exact. On a fait notre devoir, on attendra certainement d'être contacté soit par Balthazar, soit par quelqu'un d'autre.
Ouais. Mais n'empêche, j'arrive pas à me sortir de l'esprit qu'il y a Anguille sous roche.
Moi non plus, mais on a fait notre possible. Au bout d'un moment, on est les Cerbères, on ne fait que garder l'entrée des enfers.
Ouais, c'est ça, et là on a vachement gardé, ouais. On est les larbins de service, c'est tout. Et du coup, les larbins, ils ont besoin de repos, là. Allez, hop, on redescend.
Oui, j'ai besoin de repos aussi.
Alors, c'est ainsi que se conclut ce chapitre. Les Cerbères sont parvenus, à l'aide notamment de la coterie des Murmures, mais aussi du shérif, qu'il le veuille ou non, à mitiger l'impact des machinations de Philippe Rigaud. Cependant, la victoire a un petit peu un goût amer. Des vies ont été gaspillées, des refuges ont été détruits, les tensions entre les Anarques et la Camarilla ont été ravivées. Philippe Rigaud n'a peut-être pas renversé la tour d'ivoire, mais il en a fragilisé les fondations. Qui sait quel plan tordu préparera-t-il pour sa prochaine attaque de la ville? Et on va clôturer là. Vous gagnez tous des points d'expérience que vous allez pouvoir dépenser. En plus de cela, vous obtenez une augmentation, en fait, du domaine de votre coterie.
Ah, cool!
La caractéristique de viandice, donc c'est la taille de votre domaine, progresse de 1, du fait d'une décision du prince. Et Vous obtenez aussi une faveur majeure de la part de Kevin Jackson.
Ah, ça, c'est cool.
Au niveau personnel, Christopher, s'il accepte, devient limier à la demande de Balthazar.
Oh.
Faut voir ce que ça implique.
Alors, limier, c'est le rang juste en dessous de shérif. C'est un statut de 2, et du coup, ça fait que tu as l'autorité du shérif sur les missions qu'il te donne.
Je pense que, de toute façon, Christopher va accepter.
Donc, Christopher est maintenant l'un des limiers de Chicago.
Super. Ce sera tellement pas un fardeau à un moment donné quelque part.
Je fais ça pour nous, vous savez.
Oui, bien sûr.
Lizzie, vu qu'elle a pu rendre une copie du manuscrit de Ménélée à Nikolai, obtient 6 points d'XP de rituel. Donc ça veut dire soit 2 rituels de niveau 1, soit 1 rituel de niveau 2.
Ok. Donc je regarde.
Anna obtient un statut de 1, parce qu'elle a évolué un peu dans des milieux où elle était peu connue, mais ça a permis qu'elle affermisse sa position dans la Camarilla. Et elle obtient également la spécialité descendant pour la compétence politique. De son côté, Hélène gagne la spécialité bagarre griffe.
Ah, cool.
Et la spécialité négociation en persuasion.
Ouais, les négociations musclées.
Alors, bagarre.
Elle a négocié pas mal avec notamment des anarches, etc. Elle a géré des situations de manière pacifique à de nombreuses reprises. Finalement, il y a plusieurs sagas qui sont ouvertes à vos personnages. Hélène, si elle le souhaite, peut passer les épreuves de Tyrus pour commencer son intronisation dans la meute des loups. Mais bon, c'est les épreuves de Tyrus, hein, donc
oui.
Ça revêt un certain nombre de dangers. Christopher et Anna se voient ouvrir la saga au clan, qui permet d'avoir des avantages du fait qu'ils font partie des clans privilégiés de la Camarilla, de la noblesse de la Camarilla.
Ça a l'air cool.
Et Lizzie peut prendre des points, si elle le souhaite, dans les sagas Pyramide et Famille Duchesky. Alors Pyramide, c'est le statut au sein du clan Tréméré. Et la Famille Duchesky, en fait, c'est une famille de ghouls au service des Tréméré de Chicago.
Oh.
Et ça permet d'avoir, par exemple, un garde du corps ou des choses comme ça.
Ok, ok.
Finalement, le coup de fil d'Hélène a permis à Dicky de progresser de son côté. Et il se pourrait que la libération de Sana, celle qui a étreint Hélène, ne soit plus très loin.
Yay.
Et on va conclure là-dessus.